Tendance première.
L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider et à réussir. C'est un livre signé Jeanne Siofachin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et c'est vrai que ce livre, il est sorti il y a de cela quelques années. Vous l'avez réédité vu son succès. Et quand on parle, eh bien, d'enfants surdoués ou d'enfants HP, ben, un premier chiffre, ça concerne à peu près 2% de la population.
2-3% exactement, effectivement, c'est la répartition statistique de la population. Donc ça concerne à peu près entre 1 et 3 enfants par classe.
Ce qui fait quand même pas mal d'enfants et ce qui revient à ce que j'ai entendu en préparant cette émission. Catherine Devreux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce livre, Au potentiel du boulet au cadeau. Vous êtes responsable également de l'ASBL Relaxo, qui est une ASBL qui vient en aide finalement aux enfants surdoués au HP. Et aux adultes aussi. Je reviens sur cette réaction que j'ai beaucoup entendue en préparant cette émission. Pas mal de parents qui me disent « Ouais, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est HP à l'école. »
Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui se posent la question du haut potentiel pour leurs enfants. Dès qu'il y a un souci comportemental ou dès qu'il y a une dérive au niveau réussite scolaire, c'est parfois du haut potentiel, mais c'est pas toujours du haut potentiel non plus. Donc là, c'est l'importance d'un diagnostic vraiment bien posé.
Jeanne Siofachin, vous êtes en duplex depuis Paris. C'est vrai que vous parlez d'enfants surdoués. Ici, on parle d'enfants à haut potentiel. Il y a déjà une différence de langage entre la France et la Belgique, en tout cas dans les habitudes. Et aucun de ces termes, finalement, ne correspond parfaitement à la carte d'identité de ces enfants.
Oui, alors la différence avec la Belgique s'estompe, puisque les Français suivent la Belgique sur cette affaire-là. Donc en France, voilà, c'est pour ça que c'est vous qui le dites, donc tout va bien. Mais donc effectivement, en France, on parle maintenant aussi de HP, et dans la communauté d'ailleurs scientifique internationale, on parle de plus en plus d'enfants HP. Mais c'est vrai, aucun de ces termes n'est satisfaisant parce que lorsqu'on parle d'enfant surdoué, qui est le terme le plus ancien qui a été introduit dans les pays francophones par un psychiatre argentin, donc c'est comme une drôle d'histoire, Ajuriaguerra, on a traduit le terme anglo-saxon qui est gifted, qui est donc doué, ayant reçu un cadeau d'une certaine façon. Et c'est pas très satisfaisant parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une supériorité, de quelque chose qui nous serait tombé un peu du ciel et que ça serait un cadeau magnifique, ce qui peut l'être, bien sûr. Mais bon, c'est un peu compliqué de dire bonjour, je suis surdoué, je crois que c'est pas très simple. Ensuite, on a parlé beaucoup en France, en tout cas, de précocité et d'enfants intellectuellement précoces parce que c'était un terme qui était plus politiquement et idéologiquement correct pour l'éducation nationale. C'était plus facile de se dire qu'il y avait des enfants qui auraient un développement intellectuel, cognitif plus rapide et qu'à un moment ou à un autre, tout le monde aurait la possibilité de rattraper des différences de rythme de développement. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas parce qu'un enfant surdoué ou HP, peu importe le terme, c'est un enfant qui a une forme d'intelligence qui est singulière, qui a une affectivité qui est aussi particulière et qui a un fonctionnement globalement différent d'un autre enfant. Et c'est pour ça qu'ensuite on parle des adultes qui sont surdoués ou HP et que bien sûr on ne peut pas parler d'adultes précoces à ce moment-là parce que vraiment ça distingue. Alors voilà, donc du HP, on parle de haut potentiel. C'est vrai qu'en Belgique, c'est vraiment le terme choisi. Maintenant, moi je trouve aussi que c'est pas tout à fait adapté non plus, parce que potentiel, ça voudrait dire finalement qu'il faudrait absolument l'exploiter. C'est comme si on vous dit, tu as un potentiel pour ceci ou cela, et ça peut créer une forme de culpabilité. D'ailleurs, certains parents ou certains enseignants peuvent arriver à dire à un enfant surdoué, HP, précoce, peu importe, oh là là, mais avec le potentiel que tu as, tu es en train de le gâcher.
Justement,
ce qui est une blessure d'emblée pour l'enfant.
Ouais. Justement, Catherine Devreux, pas mal de parents, pas mal d'enseignants disent aussi, tu es HP, donc tu es intelligent, donc tu dois réussir.
Ce qui n'est pas du tout corollaire au potentiel. Il n'y a pas du tout de correspondance. On a des HP qui peuvent complètement rater. Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur le terme parce que j'avais imaginé un autre nom. C'était HS. Donc à la fois le côté hors service par moment et hautement stimulable, qui me semble plus correspondre vraiment au fonctionnement d'HP. Maintenant, il y a tellement de noms, je n'ai pas vraiment voulu en faire quelque chose. J'en ai parlé dans mon livre, mais simplement, je trouvais que HS correspondait bien à ce profil d'enfant qui part dans tous les sens souvent, qui est vraiment stimulable, que tout lui vient à l'esprit tout le temps et que ça a un côté parfois difficile à tout niveau.
Pourquoi est-ce que ces enfants sont hyper stimulables?
Ça, c'est neurologique, c'est au niveau du cerveau que ça se passe.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que les neurosciences aujourd'hui, avec les IRM fonctionnels, c'est-à-dire la possibilité de voir le cerveau fonctionner en direct, viennent confirmer ce que nous, les cliniciens, avions évidemment compris depuis très longtemps. C'est-à-dire que d'une part, sur un plan de l'intelligence, hein, sur un plan cognitif, il a été bien montré qu'il y avait des connexion singulière, particulière entre des réseaux de neurones complexes qu'il y avait en particulier, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre la partie la plus aboutie du cerveau, qui est la partie qui se trouve sous notre front, hein, à l'avant du cerveau, et la partie à l'arrière du cerveau, qui est un petit peu la plaque tournante qui redistribue l'ensemble des informations dans le cerveau, qui avait une densité de connexion neuronale qui était extrêmement importante. Et puis, il y a aussi une notion de vitesse, c'est-à-dire une vitesse de transmission des informations, à la fois à l'intérieur du cerveau, mais aussi au niveau du traitement, c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, quand vous entendez quelque chose, il y a un temps de latence entre le moment où vous l'avez vu et le moment où ça arrive à votre système nerveux central. Eh bien, chez les HP, ces informations arrivent à peu près deux fois plus vite. Ce qui fait que ce sont des enfants qui ont cette sensation très rapidement d'avoir toujours leur cerveau en effervescence, en ébullition, un cerveau qui est toujours en marche, avec une pensée qui se déploie en arborescence, hein, ce qui est une métaphore pour expliquer la rapidité des associations d'idées qui se déploient un petit peu sans limite et à l'infini, ce qui donne à la fois une très grande créativité, la pensée divergente, hein, cette pensée qui sort des sentiers battus, mais qui quelquefois peut rendre plus difficile l'organisation des idées, l'organisation de la pensée, la structuration de la pensée. Ou à l'inverse, ce sont des enfants donc, qui peuvent être soit perdus dans leur tête d'une certaine façon, tellement ça s'agite et tellement c'est bouillonnant, tellement c'est foisonnant. Et effectivement, comme le disait Catherine, avec une très forte stimulabilité cognitive, hein, les anglo-saxons parlent d'over-excitability, ce qui est un terme très juste pour ces enfants, une forme d'intensité qu'on va retrouver un petit peu sur l'autre versant de la pièce, avec des enfants qui ont des compétences, de très hautes compétences dans la concentration, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont motivés, où ils sont effectivement stimulés cognitivement, ils peuvent être totalement absorbés dans ce qu'ils font, avec une très grande énergie à faire, à accomplir, à réaliser. Et dans ces moments-là, vous pouvez hurler, crier, taper dans vos mains, siffler, faire tomber tout ce que vous voulez autour d'eux. Rien ne se passera parce qu'ils sont à fond. Donc ce sont des enfants intenses. Là encore, dans les pays anglo-saxons, ils parlent de « intense word syndrome », qui est un terme qui est très difficile à traduire en français, mais c'est vraiment cette notion d'intensité qui les caractérise et qu'on va retrouver, et bien sûr, je suppose que nous allons en parler, enfin j'espère, qu'on va retrouver sur le plan affectif.
Évidemment qu'on va en parler.
Voilà.
Évidemment
parce que c'est peut-être surtout ça, un enfant surdoué, c'est un enfant qui pense avec le cœur d'abord.
Qui doit être compris peut-être différemment. Catherine Devreux, vous avez attendu 40 ans avant de comprendre qu'en fait vous étiez HP, d'où l'idée de créer cette association et d'écrire ce livre au potentiel du boulet au cadeau. On va revenir bien entendu sur cette notion d'affectivité, sur cette pensée qui n'est pas toujours compréhensible bien par les non-HP, que ce soit les professeurs, les parents, les amis, les oncles, les tantes ou tout simplement les copains à l'école.
Tendance première, Cédric Wautier.
On s'intéresse aujourd'hui à l'enfant surdoué, l'enfant HP, avec nos deux invités, Catherine Devreux, auteure de Haut potentiel du boulet au cadeau, et puis avec Jeanne Sio-Fachin, qui est psychologue clinicienne et qui a entre autres sorti ce livre paru aux éditions Odile Jacob, L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider et à réussir. On parlait de cette hypersensibilité de l'enfant HP, de cette manière de penser qui est différente de la nôtre. Ce qui fait que ce cerveau en ébullition peut fatiguer l'enfant HP. Il peut aussi fatiguer son entourage, que ce soit les professeurs, les parents et les amis. Jeanne.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est compliqué, surtout quand vous êtes un enfant petit. et que vous, très vite, ce sont des enfants qui sont particulièrement curieux, qui ont vraiment les yeux très écarquillés sur le monde, mmh. et qui vont tout de suite poser de multiples questions, des questions auxquelles les parents, les premiers, ont souvent beaucoup de difficultés à répondre parce que la réponse ordinaire qui pourrait satisfaire un autre enfant ne satisfera jamais ces enfants-là qui ils vont et pourquoi et pourquoi et d'accord mais pourquoi et tu as dit ça
et donc
et pourquoi,
on s'énerve
et encore pourquoi et surtout que mais c'est-à-dire que surtout on s'énerve oui mais surtout on peut se sentir démunis parce que très vite et cette fois-ci très précocement ces enfants-là vont poser des questions qui ne sont pas tout à fait de leur âge, c'est-à-dire qu'ils vont poser tout de suite des questions sur la vie, sur la mort, qu'est-ce qu'il y a avant la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort et qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ceci ou pourquoi cela, c'est-à-dire des questions très existentielles et qui peuvent en écho être très déroutantes pour les adultes et créer très vite cette sensation que de décalage que va ressentir très jeune l'enfant surdoué.
Catherine,
et qui va retrouver à l'école aussi, parce qu'il pose des questions à l'enseignant tout de suite. Souvent, d'ailleurs, les enfants, ils arrivent à l'école en disant, mais attends, ils disent à leurs parents, mais attends, tu nous avais dit qu'à l'école,
j'allais apprendre
plein de trucs, et il n'y a que des bébés, donc c'est compliqué.
Catherine Devreux, vous avez vécu pendant 40 ans sans savoir que vous étiez HP. Justement, est-ce que vous vous retrouvez dans ce discours? Est-ce qu'à l'école, vous vous retrouvez en train de vous demander, bah tiens, qu'est-ce qui se dit là à l'école, j'apprends rien.
J'ai jamais aimé l'école, déjà.
Comme bon nombre d'HP.
Alors moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce que Jeanne a dit en tant que maman, parce que quand j'ai découvert que j'étais HP, en fait, on l'a découvert par nos enfants, ce qui est souvent le parcours des parents. On voit qu'un enfant a un problème. Donc nous, nos quatre enfants sont HP, mon mari est HP, je suis HP aussi. Donc on est vraiment une famille d'HP, un nid d'HP, on pourrait dire. Ce qui fait que pour moi, mes enfants étaient tout à fait normaux. Ils étaient normaux comme moi. Donc les questions qu'ils posaient ne me semblent pas bizarres, ça me semblait normal. Et donc on a régulièrement des enfants qui sont détectés relativement tard, voire adultes aussi comme moi, parce qu'on ne se rend pas compte. On n'a pas l'impression d'être différent, enfin si, on se sent différent par rapport aux autres, mais nos enfants sont tout à fait normaux.
Comment est-ce que vous avez vécu ces années d'école, toute petite?
Mais j'ai de très mauvais souvenirs, et ce qui me reste, c'est des trahisons, c'est des choses au niveau relationnel vraiment très très difficiles.
Pourquoi? Parce qu'on le voit souvent, les enfants HP, ce sont des enfants assez seuls, assez solitaires, et qui sont même rejetés par une partie de leurs petits camarades, comme on dit.
Alors avec le recul, moi quand je l'ai analysé par la suite, j'avais toujours une ou deux amies, mais chaque fois... À l'âge adulte, je me suis dit, il y a eu des trahisons, quoi. Et pour l'enfant HP qui est très, très, très à fond dans tout ce qu'il fait, la relation est très importante. Et donc, ces blessures qu'on a sont vraiment très, très vives et mettent beaucoup de temps à guérir.
Trahison par rapport à quoi?
Oh, des faits d'enfant. Donc, je te dis un secret, tu m'en dis un, on en dit un, elle ne le dit pas. Et là, c'est la fin du monde, quoi. C'est que l'enfant, il le vit très, très fort. Et c'est des choses que nos enfants vivent très fort dans l'injustice aussi. Ce souci d'injustice est énorme, quoi.
Ouais. Jeanne, sur Fachin, c'est vrai que l'injustice, on va revenir sur ce chapitre parce que c'est une notion très importante aussi pour les enfants surdoués ou les enfants HP. Mais quels sont, de manière générale, les questionnements que se posent les très, très jeunes quand ils sont HP et qu'on ne sait pas qu'ils sont HP?
Ben, c'est-à-dire que pour revenir sur ce que disait Catherine à l'instant, c'est effectivement cette notion de valeur non négociable. C'est-à-dire que les enfants HP ont un système de valeurs qui est très fort, que ça soit autour de la confiance, autour de l'amour, autour de la justice, et ils vont défendre ces valeurs avec cœur et passion, envers et contre tous, sans se rendre compte que les autres n'ont pas le même système de valeurs. Et c'est beaucoup comme ça que démarrent les incompréhensions, parce que quand on a ces valeurs chevillées au cœur et au corps, et j'insiste sur le cœur, et j'insiste aussi sur le corps, eh bien, on peut se retrouver dans des moments, mais d'immenses sentiments de tristesse, de colère, de sentiments d'abandon, de sentiments de solitude et de sentiments d'incompréhension des autres et des adultes qui vont dire « Oh, mais là, mais arrête de faire un drame pour rien. Tu vas pas faire toute une histoire pour une bricole. » Et ça, ce sont des paroles qui peuvent être des blessures, comme il vient d'être dit, qui mettent très longtemps à cicatriser. Mais je voudrais un tout petit peu relativiser parce que ces valeurs non négociables, peuvent aussi créer chez certaines personnalités d'enfants qui, pour des tas de raisons, grandissent dans un environnement affectif où ils vont pouvoir puiser des bonnes bases de sécurité et dans un environnement scolaire bienveillants, parce qu'il en existe, bien évidemment, eh bien, ce sont quand même des enfants qui sont très charismatiques, qui peuvent s'entourer de beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire que ce sera des amis, forcément, mais ça peut être des leaders, ça peut être des meneurs, des éclaireurs, des enfants qui sont vraiment chefs de bande, mais pas pour diriger, pour avoir le pouvoir sur les autres, parce que ça, ils s'en fichent totalement, mais parce que ce sont aussi des enfants qui sont très ancrés dans eux. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment il faut faire. On revient avec cette notion de très grande intensité.
Ouais. Et d'empathie aussi. Ce sont souvent des enfants très, très empathiques, hein, qui captent les émotions des autres. Catherine Devreux, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que là, ça montre un peu aussi un côté très positif du haut potentiel en disant que c'est les enfants qui sont très sociables, qui vont vers les autres, etc. On a vraiment l'inverse chez les HP aussi. Donc pour moi, il faut faire attention aux généralités. Il y a des enfants HP qui sont dans la phobie sociale, qui ne peuvent pas aller avec les autres, qui ont peur des autres, qui sont introvertis, qui restent au fond d'eux-mêmes, et c'est une souffrance aussi. Donc on a des enfants qui sont fermés, qui sont comme des huîtres et qui sont HP aussi. Il y a tout un travail à faire avec eux. Donc il n'y a pas un profil d'HP, c'est vraiment important.
D'où l'importance de poser un diagnostic aussi sur ces HP. Ça se fait plus facilement aujourd'hui. Quels sont les premiers signes qui pourraient amener des parents ou des instituteurs à se dire « Tiens, peut-être qu'il faudrait faire un test avec cet enfant. » Catherine.
Oui.
Ou Jeanne, allez-y.
Oui, bien sûr, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques communes chez ces enfants-là, qui sont très repérables, et qui sont très repérables très tôt, qui sont souvent les parents, hein, qui les premiers sont surpris, par exemple, d'un bébé qui est très scrutateur, ça a été montré aussi par un certain nombre d'études qui ont des stratégies du regard qui sont beaucoup plus précoces que chez les autres enfants, qui regardent vraiment le monde de façon particulière, avec toutes ces questions et toutes ces curiosités qu'on a déjà évoquées. Et puis à l'école, qui vont se retrouver quelquefois avec ce décalage, c'est-à-dire des enfants à la fois qui sont très intéressés par ce qu'ils pourraient apprendre, mais en même temps qui s'ennuient considérablement dans le tempo et dans le rythme scolaire, qui peuvent être effectivement soit des enfants très agités parce que ils n'arrivent pas à trouver leur compte finalement dans cet environnement scolaire et peuvent être bruyants et peuvent être dissipés, soit effectivement se replier, se mettre dans un coin, être mal, être triste et se couper de leur environnement. Ce qui veut dire que, d'une façon générale, ce qui attire l'attention, c'est l'enfant qui finalement n'arrive pas à s'adapter, à s'ajuster à ce qui est attendu de lui. Et enfin, on ne va pas discuter de ce qu'on attend de l'enfant à l'école parce que ça nous emmènerait dans un grand débat parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais en tout cas, cet enfant-là définitivement ne rentre pas dans ce cadre scolaire. Ouais. Et ce sont ces signes-là, que ça soit des signes du côté du négatif, c'est-à-dire un enfant qui, malgré ce qu'on peut repérer de sa vivacité d'esprit, de son intelligence, est dans son coin et n'a pas de copains, tourne en rond dans la cour pendant les récrés, se sent pas bien et ne s'investit pas du tout au niveau de l'engagement scolaire, soit un enfant qui effectivement répond dès qu'on pose une question, qui va finir par agacer l'enseignant, qui va dire bon bah toi on sait que tu sais, toi je te pose pas la question parce qu'on sait que tu sais, ce qui est une violence inouïe, ou un enfant qui va faire le pitre et qui va bouger beaucoup. Donc ce sont tous ces signes. Il y a pas un signe, il y a un enfant pour lequel on remarque qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne par rapport au rythme et aux attentes scolaires. Et à ce moment-là, il faut faire un bilan. On va faire, bien sûr, mais on va faire un bilan. C'est-à-dire qu'on fait pas un diagnostic au doigt mouillé et comme ça, en regardant un enfant droit dans les yeux.
Oh ben, on va revenir sur ce diagnostic, on va revenir sur ce bilan et puis sur la place de l'école. Vous restez bien entendu avec nous, Catherine Devreux et Jeanne Sciot-Fachin.
Tendance première.
Catherine Devreux, enseignante, psychologue et responsable de l'association Relaxo, est auteur également du Haut potentiel du boulet au cadeau, un livre paru aux éditions Academia L'Harmattan. Et puis, autre invité avec nous aujourd'hui pour parler du haut potentiel chez les enfants, c'est Jeanne Sciot-Fachin, psychologue clinicienne.